Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
À tous les francophiles,
de toutes les couleurs et de toutes les origines.
Vous êtes plus de 200 millions dans le monde.
Comme une grande famille.
Je vous aime.
C'est une langue choisie.
On va discuter.
On aime les mots.
On va s'amuser.
C'est des moments humains, c'est des moments sympas.
Et il y aura de la folie.
Une certaine dinguerie.
Vibrez pour la langue française.
Au premier comme au second degré.
Bonjour sur les mots.
Rendez-vous sur TV5 Monde.
Avec plaisir.
TV5 Monde, partenaire de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Retrouvez notre programmation exceptionnelle sur Internet.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeur dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions que vous demandez, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
Europe un matin.
7h, 9h30, Bruce Toussaint.
Saviez-vous que le français est la deuxième langue la plus pratiquée en Europe après l'anglais? 220 millions de francophones dans le monde, 900 000 professeurs de français. Notre langue est bien vivante et nous allons vous le prouver ce matin. Le supplément magazine d'Europe un matin va vous faire voyager au pays des mots à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Avec nos invités, Alain Rey, bonjour.
Bonjour.
Professeur, linguiste, vous publiez le dictionnaire amoureux des dictionnaires. C'est chez Plon.
Absolument.
Claude Agege est avec nous, professeur, linguiste, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, auteur du dictionnaire amoureux des langues.
Mmh.
C'est chez Plon.
Oui.
Ça vous va?
Pourquoi ça m'irait pas?
Alors ça... Notre invité est un peu grognon, ça arrive. Ce sont des... Il y a des jours comme ça. Pour vous remettre de bonne humeur, Anatole France disait La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, voluptueuse, noble, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. Vous êtes...
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
Le français est une langue à laquelle il est ridicule de s'attacher. C'est une déclaration du gouverneur de Tokyo qui a fait mal aux oreilles des francophones et des francophiles du Japon. Estelle Cerny, notre reporter, nous en parle.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban. R-F-I.
Écoutez Pot-Pourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Pot-Pourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Ça va toujours ?
Et oui, madame, monsieur, la fête se poursuit. Aujourd'hui, nous faisons un voyage intercontinental de Haïti au Sénégal en passant par le Mali, la Roumanie, la France, le Québec, le Grand Nord de l'Ontario. Et oui, l'ingénieur du son, c'est DJ Dovera. Merci d'être là, assisté de Jennifer Lee. Bonjour, hello, welcome. Conception animation, votre serviteur, Eric Adair. Avec vous jusqu'à 13h, une émission incroyable, extraordinaire, madame, monsieur, à l'occasion de la clôture du mois de la francophonie et de la semaine de la langue française. Nous avons en effet le plaisir de vous proposer un dernier voyage avec des artistes, des invités exceptionnels, et nous allons à notre façon jongler avec les mots, les expressions de la francophonie. Que pensez-vous du français ? A-t-il un avenir ? C'est la question que nous allons poser à tous nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Dr Amadou Ba, professeur universitaire d'histoire, auteur et chercheur. C'est un grand talent pour l'Ontario. Dr Emmanuel Lepichon-Voltzmann. Elle est du CREFO OISI. Sa prochaine conférence est prévue mercredi prochain, le 28 mars, au CREFO. Et le thème pour une éducation inclusive, repenser le rôle des langues dans l'enseignement. Professeur Bernard Segui-Glini, linguiste, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et auteur de « Enrichissez-vous, parlez francophone !» Petite chronique du français comme on l'aime. Et dans le cadre de la grande consultation mondiale, mon idée pour le français, des idées, propositions des auditeurs, auditrices, internautes, des amis, partenaires destinés à soutenir la promotion de l'apprentissage de la langue française dans le monde. Et nous recevons avec plaisir dans la région de Toronto, Monsieur Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, notre santé en français. Est-ce qu'il y a justement remède magique, potion magique pour la langue, garder sa langue en santé. Marceline, fondatrice et directrice de Ciné Franco, grand amie de la radio, récipiendaire, madame, monsieur, cette semaine, comme on l'a annoncé dimanche dernier, elle a reçu en effet la médaille de l'ordre de la Pléiade. Attention, je dois vraiment être très prudent. Caroline Lebrec, si on a le temps, maître de conférence responsable de projet sur le campus de Mississauga Université de Toronto, elle nous donnera un peu son idée sur le français. Et Magda, elle est journaliste en Roumanie, Sally de la Guinée. Et pour nous joindre tout au long de l'émission, en direct 416-946-7000, Jennifer attend votre appel ou par courriel popourri@cut.fm. Et oui, j'espère, madame, monsieur, que vous avez passé de bonnes rencontres, vous avez passé de bons moments et des occasions uniques pour réfléchir sur les richesses et la diversité de la francophonie tout au long de ce mois, que vous soyez à l'île Maurice ou encore en Haïti ou en Roumanie, parce que je sais, vous êtes nombreux à nous écouter. Merci pour vos messages, c'est vraiment très gentil. Que de beaux rendez-vous, y compris ici à Toronto, à Ottawa, Thunder Bay, dans le nord de la province de l'Ontario, en Afrique, bien sûr, avec nos équipes Club RFI à Kinshasa et au Ghana, de vraies initiatives de solidarité. Un exemple à suivre. Et oui, en France, la grande consultation, Mon idée pour le français, a pris fin cette semaine, le 20 mars, avec un volte-face du président Macron, le président français, sur ses initiatives pour dépoussiérer la langue française en France et dans le monde. Très intéressant. On en parlera d'ailleurs avec nos invités. Selon nos sources, hashtag ONFR à Toronto, en Ontario, le gouvernement ontarien, tenez-vous bien, madame, monsieur, a marqué la journée de la francophonie 20 mars en toute discrétion. En toute discrétion, je dis bien. Or, il me semble que l'Ontario fait partie de la Cour des Grands et siège en tant que membre observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi cette discrétion? Pourquoi? Nous allons poser la question à nos invités. Nous allons essayer de voir aussi ce qui s'est passé à travers le Canada, les autres provinces. Est-ce que eux aussi, ils ont gardé une discrétion? Ils ont célébré la Journée internationale de la francophonie en toute discrétion? Avez-vous célébré la Journée internationale de la francophonie, chère Jennifer? Qu'est-ce que vous avez fait exactement de votre école? C'est une école d'immersion, hein? Non? C'est un collège? Non? Ah, c'est quoi alors? Ah ben, vous viendrez me partager vos expériences à la fin de l'émission. Pourquoi pas? Eh oui, madame, monsieur, on veut savoir, on veut tout savoir, si vous avez célébré la Journée internationale de la francophonie dans la joie et l'allégresse ou en toute discrétion. Nous voulons placer cette émission en signe d'hommage à tous ces militants, militantes, à ces grands défenseurs du fait français à Toronto, en Ontario, au Canada et dans le monde. Pourquoi pas? Et nous allons recevoir, madame, monsieur, plusieurs partenaires pour lancer notre programmation du printemps. Il y a des surprises, d'ailleurs, même à cette émission d'aujourd'hui. Oui. Alors, la première surprise, à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, le grand, l'unique animateur des capsules Merci Professeur, que vous avez peut-être vu à TV5, le linguiste recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et auteur de Enrichissez-vous, parlez francophone, Bernard Sergui-Glini, qui nous livre un petit extrait, sa vision de la langue française.
Grâce au travail des grammairiens au XVIIe siècle, on a bâti une langue solide, avec une très belle syntaxe, une morphologie sans très peu de variations, qui fait que nous nous comprenons d'un bout à l'autre du monde. Cela dit, il y a des accents, des mots, des expressions, toute une variété, toute une richesse qui fait que le français est mondial. Le problème de la France maintenant et de la Belgique, qui sont les berceaux, c'est que les Français et les Belges sont en minorité en francophonie. Ils ne peuvent plus prescrire une norme pour l'ensemble du monde. Le français de référence qui a pour base le français de la bourgeoisie cultivée parisienne, comme on dit, doit être mis en cause. Il faut accepter d'autres accents, d'autres formes.
D'autres matin.
7h, 9h30, Bruce Toussaint.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, qui a dit quoi sur son blog? Il a écrit « Mieux vaut prévenir que guérir ». J'espère piquer votre curiosité, c'est le cas de le dire avec ce message qui ne vaudrait plus laisser personne indifférent se faire vacciner. C'est une bonne idée, peu importe votre âge, tenez-vous bien, il n'est pas médecin ni guérisseur. C'est mon prochain invité, le premier d'ailleurs, pour célébrer cette émission de clôture. Mais d'abord, nous lui réservons une surprise, madame, monsieur. Être en bonne santé est un besoin universel. Caroline Paré, de Radio France Internationale, reçoit chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, en direct, des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Et le but, faire de la prévention auprès du grand public, informer le grand public sur ses droits, sur les traitements et les moyens d'y accéder. Et cette émission, en partenariat avec RFI et le soutien de Reflet Salvéo, voici une surprise.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles dépendantes? La dépendance, vous le savez, se caractérise par l'impossibilité de contrôler un comportement en dépit des risques. Alors, comment estimer sa consommation? Quels sont les moyens de prise en charge? Comment aussi décrocher? Car ces problèmes d'addiction sont en augmentation. On estime, par exemple, que dans le monde, 200 millions de personnes utilisent du cannabis. Là-dessus, 25 millions ont un problème de dépendance. Et d'autre part, on voit arriver de nouvelles drogues de synthèse, comme des euphorisants ou autres smart drugs qui est principalement venu d'Asie. On en parle avec le docteur Nicolas Bonnet qui est directeur du réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions.
Et oui, mesdames, messieurs, première et dernière émission. Non, c'est la dernière émission. Mais non, on sera là la semaine prochaine. Et oui, madame, monsieur, cela nous fait plaisir d'accueillir notre premier invité pour notre dernière émission, notre partenaire, monsieur Gilles Marchildon, directeur général de l'organisme à but non lucratif qui favorise l'accès des francophones à des services de santé de qualité en français. Son travail principal est de conseiller le RLIS du Centre-Ouest, les réseaux locaux d'intégration des services de santé, c'est ça, c'est l'indication de RLIS, et du Centre de Toronto et de Mississauga-Halton. Bonjour, monsieur Marchildon.
Bonjour Eric et bonjour aux auditeurs de Popouri.
Oui,
merci pour cette merveilleuse introduction. Enfin, tu as tout dit, je n'ai rien besoin d'ajouter.
Mais non, écoutez, il y a toujours des internautes, des auditeurs du Québec, de Haïti, de l'Afrique, de l'Europe qui nous écoutent et qui sont tellement curieux de savoir est-ce qu'on peut garder sa langue en santé en Ontario français.
Ben moi, je dirais que la question est plutôt est-ce qu'on peut se faire servir en français oui. lorsqu'on a des besoins pour des services de santé.
Mm-hmm.
Et bon, la réponse est mitigée à l'époque, à ce moment.
Oui.
Certains services existent. Nous tentons du mieux possible les répertorier sur notre site web et aussi de diriger les gens aux ressources qui existent.
On dit ça dans le domaine de la francophonie ici en Ontario. Là, on va jongler avec les expressions, si vous le permettez. On va aiguiller les gens vers les services, n'est-ce pas? C'est une expression que j'adore. On va aiguiller les gens.
Aiguiller ou aiguiller, peu importe. L'idée, c'est qu'au moins que les gens puissent savoir où se trouvent les services de santé en français, parce que l'information, c'est la première étape vers la bonne santé.
En effet. Alors, faut rappeler aux gens qui nous écoutent, ils sont tellement curieux, ils veulent savoir. Je ne sais pas, depuis qu'on a commencé cette émission, on a reçu des courriels, des commentaires, des questions du Vietnam, du Pakistan, de l'Inde, de l'île Maurice. Et tout le monde, là, on est vraiment à risque parce que tout le monde veut venir voir. Mais c'est quoi l'Ontario? Est-ce qu'on peut vivre uniquement en parlant français à Toronto? Tel n'est pas le cas, n'est-ce pas?
Ce n'est pas le cas. Enfin, on pourrait le faire si on était bien entouré avec des membres de la famille ou des amis qui pourraient peut-être transiger avec le monde extérieur. Mais... non, je veux dire, c'est clair qu'on est en position minoritaire dans la région torontoise. Ceci étant dit, on a quand même plus de 125 000 francophones dans le Grand Toronto et le double de cela de personnes qui parlent français ou qui le comprennent, disons. Moi, ça me... À chaque jour, lorsque je me promène à Toronto, dans le métro, dans la rue, j'entends parler français. Et je résiste, je devrais peut-être pas résister à la tentation, mais je vais toujours me retourner et dire « je vous ai entendu, bonjour, je vous ai entendu ». Mais évidemment, ils sont pressés pour passer à leur prochain rendez-vous ou aller à leurs activités culturelles, et moi aussi, alors ce sont...
Il faut faire toujours attention, hein, parce que j'étais dans un restaurant pas tellement longtemps, un petit bistrot, et il y avait plusieurs amis francophones ou français, enfin, ils parlaient français, hein. Et là, ils critiquaient un peu leur patron qu'ils aimaient pas trop. Et moi, je sais pas, ils pensaient que je comprenais pas, hein. Alors j'étais tordu de rire, parce que je me dis, mais ils auraient dû faire un peu attention quand même.
Exactement, on ne sait jamais qui autour de nous parle ou comprend suffisamment le français et pourrait donc espionner notre conversation.
Oui, alors je rappelle aux gens qui nous écoutent à l'étranger mais aussi dans la région de Toronto parce que souvent on oublie qu'on est environ plus de 500 000 francophones dépendant de certaines statistiques, n'est-ce pas? Recensement Canada, par exemple. Et environ 70% des francophones en Ontario utilisent régulièrement ou principalement le français comme langue de travail, ce qui est très intéressant. Les franco-ontariens représentent en nombre absolu la plus grande communauté de francophones du Canada après celle du Québec, ce qu'on oublie souvent, n'est-ce pas, M. Marcheldon?
Oui, c'est vrai, et c'est parce qu'entre autres, on est une minorité non pas visible, mais audible.
Mmh. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, justement, je regarde la fermeture de ces maisons d'édition. C'était à Ottawa la semaine dernière, maintenant c'est à Sudbury. Ça fait mal au cœur de voir. Vous avez un frère, d'ailleurs, qui est écrivain, n'est-ce pas?
Oui, et qui était collaborateur pour cette... ce magazine culturel, littéraire qui s'appelle Liaison, qui, justement, vous y faites référence, a cessé d'être publié cette semaine. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais en même temps, bon, les choses évoluent. Je pense que, en dépit de certaines nouvelles comme ça qui nous surprennent, il y a quand même des progrès importants qui se réalisent, qui sont peut-être moins, qui font pas les manchettes. Mais, je donne l'exemple de vendredi soir, il y avait une rencontre qu'on organisait à Mississauga, un souper communautaire pour réunir les gens afin de parler de santé. Et il y avait plus de 70 personnes à Mississauga. 70 personnes un vendredi soir qui sont venues, qui se sont déplacées.
C'est beau.
Qui ont pris de leur temps pour venir parler santé. Et bon, bien sûr qu'on a rendu la soirée, ça a valu la peine, non seulement à cause du repas, mais on a présenté des grands thèmes reliés à la santé sous forme théâtrale. Et donc, on avait des comédiens, et notamment de la troupe des Indiquinés de Toronto, qui ont fait un petit sketch théâtral de 5 minutes sur différents thèmes, comme par exemple l'accès aux services en tant que nouveaux arrivants, la santé mentale, les personnes aînées. Et donc, grâce à ces petits sketchs ou scénettes théâtrales, les gens ont parlé de leur vécu, ont parlé de leurs souhaits. Et justement, c'était organisé en partenariat avec un centre de santé communautaire qui s'appelle East Mississauga. Et ils viennent tout juste d'embaucher un promoteur de la santé francophone. Alors, on voit, et je pourrais parler de Rexdale aussi, que là aussi, il y a maintenant un médecin bilingue, un promoteur de la santé francophone. Donc, il y a des percées là où avant, il n'y avait rien du tout pour les francophones du côté de la santé. Il y a des percées importantes. Et ça, bon, ça ne fait peut-être pas la manchette, mais c'est quand même signe de progrès.
La création, la créativité, l'innovation, et surtout vous, avec votre être en tête d'un organisme comme Reflet Salvéo, je pense vous brisez un peu les tabous, il faut bien le dire. D'ailleurs, vous organisez des ateliers sur la santé mentale qui est très, très tabou dans certaines communautés. Vous avez eu un succès, je me souviens, il y a un an de cela. Et donc, il faut innover pour survivre et faire rayonner la langue française, mais peut-être d'une autre façon, d'une autre approche.
Tout à fait. Et je pense que dans certains cas, il y a lieu d'utiliser qui est peut-être notre désavantage ou notre faiblesse, le fait d'être minoritaire, d'utiliser ça plutôt comme un outil. Le fait que nous ne soyons pas aussi nombreux que la communauté majoritaire anglophone, c'est qu'on a moins de silos, moins de barrières entre les différents domaines, que ce soit économique, la santé, les arts, la culture, le domaine scolaire. Et d'ailleurs, l'émission Popourri, je pense, c'est un exemple de ce décloisonnement de la francophonie.
Mais
vous touchez à tout.
Oui, en effet, d'ailleurs, on avait une animatrice, co-animatrice au début, Lilia touche à tout, parce que justement, on fait, tu sais, le saut à l'âne, comment on dit ça?
Du coq à l'âne,
voilà, une autre expression. Et puis, ce que je trouve formidable, Gilles Machuldon, c'est la création chez les Africains. C'est le slam, les proses, leur façon de jongler avec les mots pour faire avancer la cause du sida, la prévention et tout ça. Je trouve ça, on a beaucoup à apprendre des autres francophones de la planète. Et c'est ça qui fait la beauté de Toronto, mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'étranger. Nous sommes un laboratoire de peuple, n'est-ce pas?
Absolument, on peut voyager de par le monde. Voilà. Ici, dans la francophonie de Toronto. Et justement, nous, on est une petite équipe. On est 5 personnes à Reflet Salvéo au niveau des postes permanents. Et je suis le seul qui est Canadien de souche, c'est-à-dire né au Canada.
Ah oui.
Mes autres collègues viennent de la France, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Québec. Donc, on est vraiment très diversifié et c'est ça, la francophonie torontoise.
Nous avons une autre surprise pour vous parce que vous êtes un partenaire de notre émission et nous aussi, nous essayons avec Radio France Internationale, les médecins, les chercheurs, de voir comment intéresser les auditeurs de ce que vous faites ici à Toronto, mais en lien avec des spécialistes. On écoute.
Alors, les allergies les plus fréquentes, ce sont des pollens. En général, ce sont les pollens pour le sud, les cyprès, pour le nord, le bouleau. Ça, ce sont pour les pollens. Alors, les plus fréquentes des plus fréquentes, c'est ce qu'on trouve dans les maisons, les acariens.
Et là, on parle, vous disiez le sud, le nord, on parle pour l'Europe, pour la France. Au niveau, sans justement tenir compte de la géographie, ce sont tout de même ces pollens qui sont les allergènes les plus fréquents.
Alors, je dirais ici, c'est sur le monde entier. Hein, je pense beaucoup à l'Afrique, à les pays subsahariens, les pays tropicaux humides, c'est surtout les acariens. Les pollens vont être très différents, d'autant plus.
Et oui, ici, on parle des allergies parce que c'est un problème, surtout au printemps, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup de gens ont les yeux qui larmoient et souffrent des allergies. Et souvent, il n'y a pas de remède magique. Et on va concocter une émission avec Radio France Internationale. J'espère que ça va intéresser votre auditoire, mais aussi les auditeurs d'ici et d'ailleurs. Qu'en pensez-vous, Gilles?
Ben, je pense que ça promet d'être très intéressant. Vous savez, les préoccupations d'ordre pulmonaire, mm-hmm. si je puis dire, sont au premier rang des soucis ici également en milieu urbain. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert de l'asthme. Mm-hmm. Et c'est là où on voit que la santé touche tous les domaines, y compris l'économique. Il y a eu une décision en Ontario. Ils ont fermé les usines de génération d'électricité qui étaient à base de charbon pour essayer justement, entre autres, de soulager, mm-hmm. De décharger l'atmosphère de particules qui faisaient souffrir en particulier des personnes avec l'asthme.
Oui.
Donc, il y a eu des améliorations de ce côté-là.
Alors, ce qu'on veut faire, c'est que la francophonie ne doit pas s'arrêter, madame, monsieur, à seulement l'éducation. C'est très important, c'est essentiel. La culture, la chanson, la poésie. Mais on peut et on doit parler la santé en français, les services sociaux en français, l'immigration en français, les droits de la personne en français, les droits des femmes en français, les droits des LGBT en français. On peut en citer comme ça, n'est-ce pas?
Oui, je pense que la manière que je vois la francophonie, c'est une grande famille planétaire et qui a une certaine force, une présence mondiale, une force, on le disait... C'est la deuxième langue la plus apprise, mm-hmm. c'est la troisième langue des affaires, c'est la quatrième langue c'est la cinquième langue la plus parlée, mais la quatrième, je sais qu'il y a toute une déclinaison que l'Organisation internationale de la francophonie a récemment publiée au niveau des statistiques. Je devrais les mémoriser, mais enfin, le français et la culture francophone ont une énorme capacité d'agir pour l'amélioration de la planète.
Voilà. Exactement. Alors, j'ai tellement de questions à vous poser parce que cette semaine, c'était l'annonce du budget, le dernier budget de ce gouvernement de l'Ontario. Il y a eu des plans d'action pour améliorer les soins de santé, surtout pour les personnes à domicile, les personnes âgées à domicile. Je voulais vous parler... est-ce que
Et la
y a
santé
un plan,
mentale aussi,
justement,
il y a eu une
annonce. Voilà. Oui. Je voulais vous parler... Là, il faudrait vous inviter pour une autre émission parce que ça demande une heure ou deux heures pour bavarder avec vous, placoter avec vous du plan d'action pour les
jaser,
francophones, pour jaser, voilà, du plan d'action pour les francophones et aussi subvention pour les francophones, mais on pourra en parler. Mais il y a une auditrice qui me demande, quelle est la signification de reflet salvéo?
Ah, les origines de notre nom. Mmh. C'est très intéressant parce que notre nom d'origine, c'était... Alors, je dois prendre mon souffle pour bien le dire dans une seule, dans un seul souffle. C'était l'entité de planification numéro 3 pour le Centre Toronto, Mississauga-Halton et Centre Ouest.
Ah oui.
Alors, le conseil d'administration originel s'était dit, faudrait un nom un peu plus facile et accessible et dynamique. Donc, ils ont organisé un concours Et c'est le nom Reflet Salveo qui a gagné sur le mérite de dire que, ben, d'une part, Reflet, c'est parce que nous espérons pouvoir prendre le pouls de la communauté et de refléter ses besoins auprès du système de santé. Et Salveo, ça vient du mot latin, qui veut dire bonne santé.
Alors, un mot pour terminer, et merci encore beaucoup, beaucoup du fond du cœur d'être avec nous, parce que nous avons des nouveaux invités, des médecins, des docteurs en lettres, des historiens, et puis les auditeurs qui nous écoutent. Un mot, peut-être des vœux, pour clôturer ce mois de la francophonie à l'antenne.
Ben, je vous souhaite d'être en bonne santé, et santé de manière très holistique, qui comprend la santé mentale, la santé sociale et la vitalité communautaire.
Très bien. Et les gens, d'ailleurs, peuvent aller sur votre site s'ils veulent avoir des renseignements sur tous les programmes et vos blogs que j'admire. Je trouve ça formidable. Vous donnez quand même un petit coup de pouce pour familiariser les gens sur les termes, mais aussi sur les services qui sont disponibles. www.reflet-salveo.ca. Et au nom de toute l'équipe et de l'Université de Toronto, je vous remercie de votre partenariat, de votre soutien de toujours. Merci, merci. Et que la francophonie vive dans tous ses éclats et dans toute sa diversité, chez vous, mais aussi en Ontario. Et surtout, mes bons voeux à vous et dans vos projets.
Et merci à vous, merci de vous intéresser à la santé et nous donner cette plateforme pour amener cette sensibilisation auprès de vos auditeurs.
Merci. Allez, tous les élèves, tous les professeurs vous applaudissent. Voilà. Au revoir, Monsieur Jules Machigdon.
Au revoir, bonne émission.
Salut, je m'appelle Yao, je suis artiste slammeur franco-ontarien et je suis très heureux d'être le porte-parole du concours vidéo Slam tes accents, développé par le Centre de la francophonie des Amériques. J'invite tous les enseignants et leurs élèves de 12 ans à 17 ans à travers les Amériques à participer à ce concours vidéo. Le slam, c'est la poésie, c'est les mots, c'est la couleur, c'est le rythme, mais c'est aussi les accents. Slam tes accents est un concours international qui a lieu du 1er mars au 31 mars 2018 durant le mois de la francophonie et qui célèbre la richesse, la diversité et les accents francophones à travers les Amériques. Alors taillez vos crayons, préparez vos slams d'ici le mois de mars, sortez vos caméras et venez représenter votre école à travers les Amériques. Plus de 10 000 $ de prix sont à gagner. Je viendrai visiter les classes gagnantes. Je vous offre aussi un atelier d'écriture personnalisé pour vous et votre classe. Alors bonne chance à tous et à toutes. Et j'ai hâte de rencontrer la classe gagnante.
CIUT 89.5, Toronto.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
La langue parlée, c'est un art, celui d'une mise en bouche, l'apprentissage d'un rythme, d'une intonation, une musique des mots. Avec nous, pour en parler, Étienne Minungou, comédien, auteur et adaptateur de pièces de théâtre.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
La francophonie, la francophonie, mon support, mon air. La francophonie, la francophonie, qui s'invoque, mon air.
Eh oui, le français est la langue officielle de nombreux pays indépendants ainsi que de territoires divers, de plusieurs institutions, en plus de la France et des régions francophones limitrophes, notamment en Belgique romane, en Suisse romande, d'où la langue est originaire. Il s'agit pour la plupart d'anciennes colonies comme le Sénégal ou d'anciens protectorats français et belges. Cependant, il convient de distinguer deux cas de figure, les pays où le français est la langue officielle unique. Il peut alors s'agir de la langue maternelle de la population, comme en France, ou d'une langue apprise majeure qui joue souvent le rôle de langue véhiculaire dans des états divisés sur le plan linguistique, comme au Congo, Kinshasa ou en Côte d'Ivoire. Et les pays et le français est une langue co-officielle ou aux côtés d'autres langues. Mon prochain invité a un parcours assez particulier, madame, monsieur, et c'est la première fois qu'il passe sur nos ondes. Et nous sommes très, très heureux, très fiers. Il mérite d'être connu, il me semble, dans les milieux littéraires et universitaires, en Ontario, au Canada et dans le monde, pourquoi pas. Il détient un baccalauréat en enseignement université Laurentienne Sudbury en Ontario, Canada, un doctorat en histoire de l'Université Paris 7 et sa thèse soutenue avec la mention très honorable était « Les militaires ouest-africains dans la colonisation de Madagascar de 1895 à 1960 ». Malgache que j'aime bien, j'ai vécu quelques temps, quelques mois à Antananarivo. Et oui, il détient aussi un Master 2 en sciences politiques universitaires de Paris, la Sorbonne. Et le sujet de recherche était l'intégration des réfugiés Peuls de Mauritanie installés dans le Fouta sénégalais. Il détient aussi un Master en histoire université de Paris. Et le sujet était les militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île. Et enfin, il détient une maîtrise en histoire à l'Université Paris 7. Il est membre de l'Ordre des enseignants-enseignantes de l'Ontario et du Canada. Il a été enseignant chargé de cours à l'Université Laurentienne de Sudbury pendant quelques temps. Il est actuellement enseignant suppléant dans les écoles francophones du nord-est de l'Ontario. Eh oui, mesdames, messieurs, nous accueillons avec plaisir et chaleureusement pour la première fois à l'antenne, docteur Amadou Ba, dans le cadre de cette émission de clôture du mois de la francophonie. Bonjour, docteur Ba.
Oui, bonjour.
C'est tout un honneur de vous recevoir aujourd'hui à notre émission.
Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de passer à votre radio. Merci pour la belle présentation. Je suis content d'être avec vous.
Oui, c'est bien le nord de l'Ontario que j'aime particulièrement, mais North Bay et Toronto, il y a tout un décalage de température, n'est-ce pas?
Absolument. On est toujours dans l'Ontario, mais on ne vit pas les mêmes réalités souvent.
Oui. Alors, est-ce que vous avez célébré le mois ou la journée internationale de la francophonie en grande pompe ou en toute discrétion?
Oui, moi qui exerce en ce moment dans les écoles francophones, je vous assure que ça a été une journée très, très remplie. Beaucoup d'activités dans les écoles, les élèves, tout le monde s'est impliqué, toute la communauté s'est impliquée. Le français, ça ne passe pas inaperçu ici. Hein.
Oui, et les gens souvent connaissent mal le nord de l'Ontario, surtout Timmins, Sudbury, North Bay. Il y a des pochettes de regroupements d'associations, d'organismes francophones qui militent bec et ongles pour garder le français et avoir des services en français pour les francophones.
Oui, la communauté francophone dans le nord de l'Ontario est une communauté très, très active. Mmh. Hein. Il faut rappeler que l'immigration francophone dans le nord et le nord-est de l'Ontario, c'est une immigration assez ancienne, très ancienne même, hein, qui fait suite à l'immigration depuis la France et puis via le Québec. Une immigration assez rurale, hein, des gens qui travaillent dans la forêt, des ruraux qui travaillaient comme fermiers et tout ça. Et ils ont des éléments de culture auxquels ils tiennent très fort. Et le français ici, les gens ne veulent pas lâcher et puis ils ont raison de le faire savoir. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de dynamisme très fort pour que le français dans le nord de l'Ontario ça reste. Il y a les écoles francophones aussi, un peu partout dans les endroits les plus reculés. C'est vraiment le français vit ici.
Ouais. Oui. Et vous aurez pu faire carrière avec un curriculum vitae comme le vôtre en France, en Belgique, en Afrique. Pourquoi, sans être trop indiscret, avez-vous décidé de venir en Ontario?
Cette question-là, on me la pose souvent. La dernière fois que j'étais avec Radio-Canada, on me l'a posée. J'aime bien cette question parce que je réponds souvent que la vie a souvent ses péripéties. Mais dans mon cas particulier, je vais essayer d'expliquer. Après avoir fait mes études en France et eu mon doctorat, l'objectif était de retourner tout de suite au Sénégal pour avoir un poste à l'université. Mais comme vous le savez, en Afrique, on a un problème de décentralisation. Je vous dis, tout se passe en fait, pour le cas du Sénégal en ce moment, beaucoup de pays africains, dans la grande ville, dans la métropole Dakar. Hein. Moi, je suis originaire de 700 km de Dakar. Ce qui voudrait dire que si je rentre tout de suite au pays, c'est je vais apprendre, il faut qu'on me prenne en charge. Les gens aimeraient bien faire ça, mais ils n'ont pas toujours les moyens de prendre quelqu'un. Et puis j'étais habitué à me prendre en charge moi-même, donc j'avais peur de retourner dans l'inconnu et d'attendre. Et puis j'avais cette option de passer par l'immigration au Québec pour voir l'Amérique du Nord.
Beaucoup de gens font ça d'ailleurs, hein, beaucoup de gens font ça.
Absolument, et puis petit à petit, voilà, je suis venu.
Et
voilà,
pourquoi, il y a encore une autre question indiscrète, les auditeurs me disent, mais pourquoi il n'est pas resté au Québec?
Bon, au Québec, je ne suis pas resté au Québec parce que j'avais une opportunité d'enseigner le français tout de suite en Ontario, à Sudbury. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé à Sudbury, j'ai vu que la ville était bilingue, il y avait des francophones, il y avait une université bilingue, j'ai fait mon baccalauréat. J'ai commencé à donner des cours aussi au département d'histoire, à l'école des sciences et aussi au département de sciences politiques.
À l'université Laurentienne.
Oui, toujours à l'université Laurentienne. Mais c'est récemment que les choses ont changé parce que l'école des sciences de l'éducation, le baccalauréat est passé à 2 ans. Ils n'ont vraiment pas besoin d'enseignants. Les cours ont diminué. Donc. Et puis au département de sciences politiques aussi, l'université Bury a fermé. Donc c'est seulement resté le côté de Sudbury, il y a encore un besoin qui a diminué. En fait, donc, je me suis rabattu un peu dans les écoles secondaires et puis avec mon agrégation, mon certificat en enseignement, j'exerce dans les écoles. Je n'ai pas pu donc retourner au Québec, mais aussi je voulais aussi perfectionner aussi en anglais parce que aussi, l'Ontario est aussi une province avant tout anglophone. Voilà, j'ai fait mon petit chemin comme ça.
Et d'ailleurs, je dois remercier ici votre collègue, Dr Aurélie Lacassagne, qui est auteure, qui passe régulièrement à notre émission. C'est elle qui a fait le trait d'union entre vous et nous récemment.
Absolument. Aurélie et moi, on travaille beaucoup et puis on est tous très actifs dans la communauté francophone.
Elle est vraiment formidable. Et il y a tellement de choses, parce que vous avez aussi plusieurs livres que vous avez publiés. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est au mois d'août 2016, pas très longtemps, vous avez sorti un deuxième livre intitulé « Quelles valeurs transmettre aux jeunes au XXIe siècle ? Une éducation morale et éthique plus marquée pour soulager un monde en détresse ?» C'était aux éditions Pour tous à Montréal, Québec. Pourquoi ce thème, Dr Ba ?
Oui, ce thème, j'y tiens absolument. Bon, face à toutes les turbulences qu'on voit dans notre monde, face à cette violence, face à cette détresse, je me suis dit que ce qui pourrait nous sauver simplement, c'est le retour aux valeurs humaines, aux valeurs humanistes, aux valeurs très fortes. Et cela, c'est l'école qui peut être le garant de ça. Les valeurs, les familles laissées à elles seules ne peuvent pas enseigner les mêmes valeurs. Donc l'école a l'obligation de définir les valeurs pour une société, de former une jeunesse. Et une école démocratique, une école qui forme les jeunes, qui façonne les jeunes sur la base des valeurs, c'est une école qui permet de vivre en paix, de vivre dans un monde stable. Aujourd'hui, nous avons besoin de changer la situation qui prévaut. Il y a trop de violence, il y a trop de choses qui se passent, et je ne trouve pas ça normal. Et c'est l'école. Ce n'est pas autre chose de mon point de vue. C'est vrai que les religions, on en parle souvent, on parle des familles et tout, mais pour moi, le principal garant de ces valeurs-là, là où ça peut se passer pour vraiment que ça puisse se réaliser, c'est dans les écoles.
D'abord. Alors, j'ai des contacts avec des confrères qui travaillent pour le club RFI en Afrique, que ce soit au Ghana, au Congo. Et il y a tout un débat sur la culture, sur l'éducation justement. Et aujourd'hui, avec les tablettes, les portables, l'Internet, les réseaux sociaux, les jeunes sont embrigadés, docteur, dans toutes sortes de philosophies et dans toutes sortes de dimensions idéologiques qu'ils n'arrivent pas à contrôler nécessairement. Et on voit, par exemple, la montée des extrémistes un peu partout, pas seulement en Afrique, hein, même aux États-Unis. Ici, nous en avons, nous aussi, nos extrémistes. Comment l'école seule peut contrer toutes ces forces négatives qui viennent du monde extérieur et qui influencent les jeunes, la jeunesse?
Absolument, c'est tellement là, j'en parle dans mon livre. Je parle de nouvelles technologies comme un couteau à double tranchant. Et j'en parle aussi que ça peut être un moyen, par exemple, le fameux learning by getting the fun. C'est-à-dire que apprendre par le plaisir, ces outils-là peuvent permettre aux élèves d'apprendre par le plaisir. Mais attention, il y a beaucoup de choses très, très négatives qui sont dans ces outils-là. Donc, l'école, en travaillant avec les familles, avec des partenaires sociaux, peuvent canaliser cette violence qui se trouve dans les nouvelles technologies. C'est un travail. Quand je dis l'école, je ne parle pas simplement de l'école, mais je parle de l'école avec ses partenaires, avec les parents d'élèves, avec la société. Il faudra qu'on redéfinisse tout ça. Comment, quelle approche devons-nous avoir? Quel rôle maintenant l'école doit avoir pour les élèves? Et puis aussi, essayer de contenir ces sites-là où les élèves, des jeunes enfants qui peuvent accéder à la... Je ne trouve pas ça normal. Je pense qu'on doit faire quelque chose pour éviter que nos jeunes soient de futurs adultes violents, qui ne soient pas sensibles à la détresse, à la souffrance d'autres personnes. Ce n'est pas normal. On a l'obligation de le faire.
Et d'ailleurs, on a vu hier cette marche monstre à Washington, mais aussi dans plusieurs villes des États-Unis et dans le monde, où les jeunes ont crié haut et fort, la violence, on en a marre, assez, c'est assez.
Oui, tout le monde en a marre, mais c'est que tout le monde ne fait pas l'effort pour que ça s'arrête. C'est ça le problème. Le constat, il est là, il est terrible. Mais après le constat, la question, c'est quoi faire? C'est ça le plus important. Oui. On peut constater un problème, mais si on n'est pas là pour chercher des solutions, on n'a pas fait de 5% de la situation.
Alors, vous savez que le président français et d'autres partenaires, l'Institut français entre autres, ont démarré ce sondage au mois de janvier et ils ont eu des recommandations, des idées assez intéressantes. Mon idée pour le français, et nous ici, nous avons eu ce plaisir et le privilège de présenter aux auditeurs, auditrices, quelques extraits de certains auditeurs et internautes. Je vous invite, si cela vous intéresse, d'être avec moi pour écouter Zoumane, qui nous vient du Sénégal et a une idée assez originale et ambitieuse pour la langue française et la plurilinguisme dans le monde. On l'écoute.
Bienvenue en terre sénégalaise, patrie de l'académicien président poète Senghor, où on a réussi à arracher aux colons sa langue française, tel un butin de guerre qui récompense nos efforts. Nous avons perdu certaines batailles vernaculaires, certes, mais au final, on a gagné de grands combats lexicaux. Nos langues locales résistent en concédant quelques pertes. Normal, la route était jonchée de pièges grammaticaux. Nous déplorons de nombreuses victimes de bombes linguistiques. Et même pour les plus aguerris d'entre nous, c'était la catastrophe. On tombait souvent dans les guet-apens orthographiques. Et dans nos têtes s'embrouillaient masculin, pluriel, féminin et apostrophe. Et puis, de guerre lasse, on a laissé la langue s'installer dans nos bouches. Cependant, pour être plus à l'aise, elle nécessitait quelques retouches. Pour dire charrette, voiture, stade, aéroplane, on dira sarrette, voiture, estade, roplane. On dira pober, feber, sarbet, gouvernement. Pour poivre, fièvre, serviette, gouvernement. Les figures de style du toubab seront défigurées par les inconditionnels soldats des langues sans impératif de temps. C'est vrai que le français participe de notre passé, mais nous lui offrons un rayonnant futur comme présent. Créer une réelle académie africaine de langues ne serait pas une chose étrange. Ça sera en tout cas une plateforme interactive et participative d'échange.
Eh oui, vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, c'est très intéressant ce qu'il dit, hein. Ça m'a fait un peu sourire, mais bon, oui.
Est-ce que vous avez une... Depuis que vous êtes au Canada, je ne sais pas combien d'années, mais vous avez assez côtoyé les francophones, francophiles de votre région et peut-être ailleurs au Canada, pour peut-être avoir des idées pour faire avancer mieux la langue française dans ce pays ?
Oui, absolument. Ici, les gens, je travaille avec la communauté, je participe souvent à certaines réunions et tout ça. Les gens ne manquent pas d'idées. Ici, en fait, le français, c'est que la première chose, c'est que les gens doivent faire en sorte que le taux d'assimilation ne progresse pas. Vous voyez un peu, en Ontario français, pendant longtemps, les gens ont lutté pour que le français existe. Les francophones ont leurs droits, ils enseignent tout, mais j'ai l'impression que le taux d'assimilation est en train de multiplier. Par exemple, il était de 26% il y a comme 40-50 ans. Aujourd'hui, il est à 46%. Mmh. Il augmente trop. Donc, la première hantise ici, c'est que devons-nous faire pour que nos jeunes ne vont pas devenir, entre guillemets, anglophones. Oui. Donc, il y a souvent la question, doit-on accepter des enfants qui ne sont pas de famille francophone, aller dans les écoles francophones ? Des débats comme ça. Il y a beaucoup de débats où parfois c'est un peu conflictuel, mais on regarde le fond, c'est vraiment des questions de fond qui permettent de savoir qu'est-ce que doit être le français en Ontario à l'avenir.
Ce qui m'épate chez vous, Dr Ba, c'est cet intérêt particulier que vous avez pour la contribution des Noirs dans les armées. Et là, vous êtes en train, d'ailleurs, il y a une recherche qui est en cours de votre part sur la contribution des Noirs à l'édification du Canada, les Africains canadiens dans les armées et les guerres canadiennes de 1812 à 1945. Pourquoi cet intérêt?
Oui, absolument. L'intérêt, il est très réel. Parce que, comme j'ai dit, avant de venir au Canada, j'ai fait ma thèse sur les militaires africains dans la conquête et la colonisation de Madagascar de 1895 à 1960. Et quand je suis venu au Canada, en tant qu'historien, je voulais connaître l'histoire de mon pays. Hein. Je suis canadien aussi, donc je vis ici. Et en commençant à lire, je me suis dit, mais peut-être que ce qui s'est passé dans l'Empire colonial français, c'est passé aussi en Amérique du Nord, et pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à lire et je me suis aperçu que très tôt, les Noirs ont été utilisés comme soldats dans les guerres contre les Américains, et en tout cas dans toutes les guerres que le Canada s'est engagé avant la Confédération et après la Confédération. Mmh. Et ces Noirs ont joué un rôle majeur pour que le Canada, notre pays, reste encore un pays. Parce que si le Canada est un pays aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à gagner toutes ces guerres. Il y a un historien canadien très connu qui s'appelle Desmond Morton qui dit « Le Canada, ce n'est pas un pays de guerre, mais ce sont les guerres qui ont fait le Canada ». Et figurez-vous, dans toutes les guerres que le Canada s'est engagé, les Noirs étaient bien dans ces guerres-là. Et ce n'est pas une histoire connue. L'immigration des Noirs au Canada, elle n'est pas connue. L'histoire des Noirs au Canada n'est pas connue. La vie des Noirs au Canada n'est pas connue. Donc moi, j'ai voulu revenir sur cette histoire qui date de 1604, le premier Noir arrivé au Canada. Jusqu'à aujourd'hui, les Noirs sont là aujourd'hui. Les Noirs font plus de 1,2 million personnes au Canada. C'est une communauté qui grandit. Mais derrière ça, les gens ont du mal à savoir qu'il y a des Africains canadiens qui sont là depuis 4 siècles. Dès qu'on voit un Noir, on demande d'où viens-tu, est-ce que tu es de l'Afrique, est-ce que tu viens de Haïti. Il ne faut pas s'apercevoir qu'il y a des Noirs qui sont... En plus, les Noirs sont venus au Canada avant les Britanniques. C'est quand même incroyable. Hein? Ils sont venus avec les Français. Les Français étaient là avant les Britanniques. Sous l'esclavage en Nouvelle-France. Tout le monde n'est pas venu comme esclave. Il y avait des hommes libres qui étaient là aussi. Donc c'est un sujet qui me passionne beaucoup, vraiment.
Et il y a tellement, tellement à faire pour démystifier justement tous ces mythes sur l'immigration, sur la contribution, sur les Noirs. C'est les autochtones aussi. Les gens ne connaissent même pas l'histoire des autochtones.
Non, en fait, c'est une histoire où même quand tu évoques ça, les gens, ils sont même parfois frustrés.
Je pense que
tu es en train de délirer.
Voilà.
Et pourtant, c'est la réalité.
Ouais.
J'ai essayé de commencer mon histoire avec la guerre de 1812, quand les États-Unis ont voulu envahir le Canada. Mais en réalité, ça commence avec la guerre de révolution américaine, quand les Anglais ont demandé aux esclaves de venir les rejoindre pour combattre les Américains. Et beaucoup, les Anglais leur ont fait des promesses.
Mais...
comme les Français ont fait des promesses aux tiers sénégalais, c'est la même chose.
Écoutez,
ils ont fait des promesses pour venir vivre au Canada, pour avoir ci, avoir ça et tout.
Ouais. Je rappelle aux gens que vous êtes vraiment un atout pour notre culture au Canada et à notre radio. J'espère qu'on aura l'occasion d'entendre vos idées, partager vos points de vue, mais aussi enrichir nos connaissances. Vous faites un très beau travail. Je rappelle aux gens que vous êtes docteur à Madouba, vous êtes dans la région de North Bay en ce moment, et vous êtes historien, vous êtes aussi conférencier, hein, vous donnez des conférences, les gens peuvent vous inviter. Alors j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en tête à tête très prochainement.
Oui, justement, avant de finir, vous dire que mes recherches en ce moment sur les Noirs au Canada, il y a beaucoup d'écrits sur le côté anglophone, mais chez nous, les francophones, il n'y a pratiquement rien.
Je suis parfaitement d'accord.
Donc, à écrire. Et mon livre, si tout se passe bien, je vais bientôt le finir pour essayer de le vulgariser aussi. Je compte sur les médias, pour, comme des gens comme vous, pour que les gens puissent au moins connaître cette histoire. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Très bien. Alors, de la part de toute l'équipe et de tous les auditeurs, on vous applaudit chaleureusement. Voilà.
Merci. Vive la francophonie. Nous sommes tous des francophones.
Au revoir et à la prochaine.
Merci pour la diversité francophone aussi. Au revoir.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
Deux fêtes pour une seule émission, une soirée French Tuesdays pour la fête de la musique. C'était le 21 juin dernier. Nous avons profité de la fête de la musique pour nous initier au mardi français de New York.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Vous Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue de l'Union européenne et la neuvième mondiale. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Algérie comptabilise la seconde communauté francophone au monde, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. En Afrique du Nord, par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les trois pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense 7 millions, soit 93% de sa population. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des deux seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprennent le français dans le monde avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète.
A plus B, syllabe, métaphore, grammaire, W, isotope, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Nous disons tous un cheval, des chevaux, un travail, des travaux. C'est une règle morphologique de base du français que tout le monde respecte. Oui, mais pourquoi dit-on un cheval des chevaux ? À cause d'un phénomène phonétique très général qui s'est produit au XIIe siècle. À cette époque, en effet, la consonne L, quand elle était suivie d'une autre consonne, est passée à U. On disait jusqu'alors un kolb de poing, on a dit un kolb de poing et ensuite un coup de poing. Mais vous allez me dire, et le cheval ? Eh bien, le cheval, il comporte une consonne qui est suivie d'une autre consonne quand il s'agit de l'S du pluriel. On disait donc d'abord des chevals, puis des chevaus, et enfin des chevaux. Voilà pourquoi on s'est mis à dire un cheval, des chevaux. Oui, mais vous allez me dire, et pourquoi un carnaval, des carnavals ? Un chacal des chacals, un festival des festivals. Eh bien parce que ces termes ont été empruntés respectivement à l'italien au XVIe siècle, au persan au XVIIe siècle, à l'anglais au XIXe siècle. C'est-à-dire bien longtemps après que le phénomène phonétique a cessé de se produire. Et comme on dit dans la gendarmerie nationale, après l'heure, c'est plus l'heure.
Merci professeur, c'est Guilini, linguiste recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et auteur de Enrichissez-vous, parlez francophone, petite chronique du français comme on l'aime, qu'on va entendre régulièrement à cette émission. Merci encore à Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo. Marceline sera des nôtres avant la fin de l'émission. Professeur Caroline Lebrecht, qui est de l'Université de Toronto, campus de Mississauga, sera aussi des nôtres. Magda, journaliste en Roumanie, nous attend. Sally de la Guinée. Et ici, nous allons immédiatement descendre à Toronto avec une invitée très, très, très spéciale.
Et oui, la fête se poursuit, madame, monsieur, c'est la dernière émission. Et oui, on clôture en grande pompe et en couleur le mois de la francophonie avec Dr Emmanuel Lepichon-Wortmann. Il donnera une conférence au CREFO cette semaine, le 28, le 28 mars. Cela vous intéresse. Et moi, j'aime bien le thème de cette conférence. Pour une éducation inclusive, repenser le rôle des langues dans l'enseignement. Eh oui, elle arrive de Montpellier, elle y était cette semaine.
Oui, tout à fait, bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, très bien, merci beaucoup de m'inviter.
Alors, je dois rappeler aux gens que vous aussi, nous sommes chanceux aujourd'hui. Nous avons la crème de la crème, comme on dit. C'est une autre expression que les anglophones adorent. La crème de la crème, c'est comme le menu du jour. Le menu du jour. Et vous avez travaillé pendant 10 ans dans le département de langue, littérature et communication de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas.
Oui, tout à fait.
Et vos recherches portaient sur le plurilinguisme en éducation.
Oui, tout à fait. Ma recherche a toujours porté sur le plurilinguisme en éducation et en particulier sur les élèves en mobilité.
Et ce qui m'intéresse encore plus, professeur, docteur, depuis 2009, vous avez dirigé plusieurs projets nationaux et internationaux sur l'inclusion dans l'éducation des élèves issus des minorités.
Tout à fait, oui.
Avec justement ce va-et-vient immigratoire, on en voit en Europe. J'ai justement un professeur qui nous a envoyé un petit tweet de l'Italie qui nous écoute sur Internet, qui est en ce moment même en train de vous écouter parce que ce sujet l'intéresse particulièrement. C'est un grand ami, professeur Nicolas D'Ambrosio. Et justement, parlez-nous un petit peu votre intérêt, pourquoi vous penchez sur ce phénomène, sur ces sujets.
Écoutez, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. J'ai commencé avec ma thèse en 2005. Et là, je m'étais intéressée aux élèves en mobilité dans le cadre des écoles internationales francophones. Et dans ce contexte, j'ai pu voir comment, en fait, les enfants pouvaient acquérir une langue qui n'était pas forcément la langue de l'environnement. À un niveau particulièrement élevé et se développer de manière tout à fait bonne dans ce milieu. Donc ça a été pour moi le démarrage de ma recherche dans ce domaine. Et puis en 2009, j'ai commencé par le biais d'un projet international à m'intéresser aux enfants migrants. Donc aux enfants qui arrivent et qui parlent une autre langue dans leur famille et qui arrivent dans l'éducation et donc reçoivent un enseignement qui n'est pas dans la langue qu'ils parlent à la maison ou en dehors de l'école.
Et ça, c'est le défi de tout enseignant. Je sais, j'en connais qui sont ici en Ontario, qui me disent à l'école, ils essaient de former l'élève pour bien apprendre le français, mais quand ils retournent chez eux, il y a encore des expressions typiques de leur pays d'origine. Parler à la maison. Donc, l'enfant, surtout 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et c'est tout un cafouillage linguistique dans sa tête.
Ah, ça, c'est très joli comme expression, cafouillage linguistique. Moi, ça me plaît beaucoup.
Ouais.
C'est quelque chose que font tous les plurilingues. Tous les plurilingues passent d'une langue à l'autre. Tous les plurilingues. En fait, les langues ne sont qu'un outil pour communiquer. Et tous les enfants, ils apprennent une langue pour communiquer. C'est vraiment leur but. Ils veulent parler avec les enfants. Ils veulent rentrer dans la communauté. Ils veulent, voilà. Et donc, c'est important. Ils vont utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition, les moyens langagiers, en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent.
Et aujourd'hui, il faut ajouter à ça les réseaux sociaux.
Ah, tout à fait. Les réseaux sociaux sont un objet d'étude chez certains linguistes très intéressant, dans lequel les enfants vont utiliser, ou les élèves vont utiliser leur langue en fonction des besoins de la personne à qui ils sont en train de parler. Alors, si la personne en face d'eux est bilingue ou plurilingue et parle les mêmes langues, ils vont probablement passer d'une langue à l'autre, même dans la même phrase. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement savant qu'il faut être. Il faut avoir un niveau déjà très élevé pour être capable de faire ça dans chacune des langues.
Oui. Et vous savez, là, on remonte aussi dans l'histoire que ça a toujours existé. Par exemple, les esclaves parlaient d'un dialecte ou encore un patois pour que leur maître n'arrivaient pas à comprendre. Ils le faisaient par exprès et c'est comme ça qu'est né, par exemple, le créole ou d'autres dialectes, parce que les esclaves voulaient avoir une communication pour justement que le maître n'arrive pas à saisir.
Tout à fait, hein? Tout à fait. C'est un des secrets des plurilingues, c'est qu'ils peuvent passer d'une langue à l'autre pour non pas être compris, mais ne pas être compris de l'environnement, ce qui peut jouer des tours. D'ailleurs, vous en avez déjà parlé dans cette émission, et qui m'a joué des tours bien des fois. En parlant le néerlandais, je pensais ne pas être comprise, et puis tout d'un coup, je m'apercevais que j'étais comprise. Voilà, donc il faut faire très attention à ça.
Je rappelle aux gens que je suis en compagnie avec Dr. Emmanuel Lepichon-Voltzmann, qui enseigne d'ailleurs au CREFO, notre partenaire ici à l'Université de Toronto. Alors, dans son discours sur la francophonie le mardi 20 mars dernier, M. Emmanuel Macron, que vous connaissez, le président français, a présenté une trentaine de mesures pour renforcer la place de la langue française dans le monde, ainsi que des préconisations sur les programmes enseignés à l'école. Entre autres, il veut voir un retour aux fondamentaux à l'école. Il souhaite que la lecture soit au cœur de l'apprentissage. Entrant dans le détail, il a demandé des exercices multipliés de la dictée à la pièce d'éloquence, de la lecture à voix haute à la chanson, de la récitation à la réflexion sur la racine des mots qui passe par la revitalisation résolue des langues anciennes. Réaction ?
Oui, 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 c'est amusant. Alors, moi, c'est amusant. Je pense que ce qui est intéressant dans ce discours, c'est que ce qu'il veut, c'est que les élèves, en tout cas, c'est ce que je comprends moi, les élèves réinvestissent la langue de l'éducation. Et c'est très intéressant. C'est une notion qui a été mise en avant par une linguiste canadienne, qui s'appelle Bonnie Norton, et qui a fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, et qui, vous savez, on parlait souvent de la motivation des élèves. Les élèves sont pas motivés, c'est ce qu'on entend très souvent.
Oui.
Mais elle a dit, attention, c'est pas la bonne question, on se pose pas la bonne question. Il faut pas parler de motivation, il faut parler d'investissement. Dans quelle mesure est-ce qu'on donne la possibilité aux élèves de s'investir dans la langue de l'école? Et je trouve que c'est une question très intéressante, parce que au lieu de blâmer les victimes, enfin de blâmer les élèves en disant ils n'ont pas le bon niveau, ils ne parlent pas la langue à la maison, etc., ils ne sont pas motivés, on va dire, attendez, c'est pas ça. Dans quelle mesure est-ce que les enseignants, le système, l'école, l'environnement est capable de mettre en place des stratégies pour favoriser l'investissement de ces élèves dans la langue en question?
Et c'est là où vraiment vous touchez à un point très important que j'adhère et je milite depuis des années. Il faut innover. Il faut peut-être sortir des sentiers battus pour que les salles de classe deviennent plus intéressantes, pour que l'apprentissage se fasse. Et la radio, les médias, les réseaux sociaux, la photographie, les échanges culturels. Tout ça peut intéresser, rendre cette langue vivante et intéressante.
Tout à fait. Nous voulons investir une langue, en ce sens, nous ne sommes pas différents des enfants, des élèves ou des étudiants, à partir du moment où nous prenons conscience de son capital culturel et de son pouvoir social. C'est exactement ce dont Macron parle, le président Macron, dans son discours. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça veut dire que, pour nous, en tant que système, il faut que nous sachions former des enseignants qui soient en mesure de multiplier les sources qui apportent cette langue en question, qui soient en mesure d'individualiser l'enseignement pour être capable de parler à ses élèves à leur niveau et puis de les motiver en leur apportant des sources qui soient capables motiver leur investissement dans la langue. Ça veut dire en particulier qu'il faut construire sur les ressources des élèves.
Alors justement, nous avons peut-être une réponse. On sait que dans certains pays, les conditions des enseignants, des professeurs de français sont très précaires, et c'est le cas selon la journaliste qui va passer en ondes dans quelques secondes. Elle s'appelle Magda, elle est journaliste en Roumanie. Elle a une idée bien à elle pour le français. Nous l'écoutons.
Bonjour, je m'appelle Magda et j'habite à Bucarest, en Roumanie. Le français est une langue très importante pour les Roumains depuis plus de 200 ans. C'était en 1776 qu'elle a été rendue obligatoire pour la première fois dans une école roumaine. Au 19e siècle, ce n'était pas juste une langue, c'était une façon d'adhérer aux idées et aux valeurs des nations européennes. Même pendant les périodes les plus sombres de notre histoire, le français a été un outil de résistance, comme pendant les 50 ans du communisme quand il a permis de résister à l'invasion slave venue de l'Est. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de francophones. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de professeurs à cause des salaires très bas. Du coup, les jeunes diplômés choisissent de travailler dans des compagnies privées ou partir à l'étranger. Moi, j'ai fait les deux. Après quelques années passées en France, je suis revenue à Roumanie où je suis journaliste. Mais certains tiennent le coup. Aura est professeur de français dans un collège de Bucarest. Elle a choisi de faire son métier malgré tout.
À la faculté, nous étions 60 étudiants. Mais de 60 étudiants, moi, je suis la seule qui a choisi cette profession. Il y a de moins en moins de professeurs de français parce que le salaire n'est pas si motivant. J'arrive à me débrouiller avec le salaire parce que je bénéficie encore du support financier de mes parents.
Le salaire est de 350 euros pour un professeur débutant et c'est difficile de tenir le coup. Moi, mon idée, c'est de créer une bourse pour les jeunes professeurs dans leurs 3 premières années d'exercice. Ça pourrait vraiment les encourager à enseigner. Et plus il y aura des professeurs de français motivés, plus il y aura des personnes à apprendre cette langue.
Et oui, ça fait penser à notre correspondant Constantin Dragan, qui est roumain, mais qui maintenant enseigne le français en Suède, s'il vous plaît, et à l'Alliance française de Suède. Alors, réaction, professeur ?
Oui, c'est exactement ce que nous disions, c'est-à-dire que on peut investir dans une langue à partir du moment où on, à la fois, c'était très intéressant parce que elle parlait de capital culturel, hein, c'est de ça dont elle parlait. Elle parlait de l'histoire de la Roumanie et de son lien avec le français, etc. Mais il faut aussi permettre que cet investissement soit permis par un pouvoir social, donc il faut simplement pouvoir vivre. Avec son métier. Et voilà, donc on se tourne vers la profession qui nous permettra de vivre, tout simplement. Donc oui, il faut investir, c'est certain.
Alors, votre conférence, j'espère que les gens seront nombreux à y assister. Et est-ce qu'il y a un sujet fort que vous aimeriez développer dans le thème que vous proposez, que je trouve formidable, pour une éducation inclusive, repenser le rôle des langues dans l'enseignement? J'espère que les enseignants et le public en général se rendent en grand nombre, parce que c'est un sujet de l'heure pour l'éducation en langue française en Ontario.
Oui, je vous remercie beaucoup. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas remettre en cause le système, mais je pense qu'il faut réfléchir à des solutions pour rendre le système éducatif plus flexible, c'est-à-dire qui s'adapte aux besoins des élèves qui se présentent dans nos écoles. En Ontario, on dit beaucoup qu'il y a des élèves qui arrivent qui ont des niveaux différents dans la langue. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Quand une entreprise a beaucoup de clients, elle ne va jamais dire « c'est un problème ». Non, le système francophone est voulu en Ontario et donc il faut maintenant mettre les stratégies en place pour qu'il fonctionne.
Il y a aussi cet aspect d'inclure peut-être dans le cursus, le curriculum, les livres des auteurs, des écrivains étrangers en langue française. Il y a une méconnaissance dans notre système éducatif, et encore une fois, je ne veux pas pointer du doigt à qui que ce soit, mais on tente à vraiment forger cette éducation sur les auteurs d'ici, franco-ontariens ou québécois, et souvent il y a une méconnaissance et peut-être même un peu un rejet d'aller chercher peut-être les richesses des écrivains. Et je pense que le président français a demandé justement que soient lus davantage d'écrivains étrangers en langue française dans les écoles.
C'est intéressant. Et je vous avouerai que moi, en ce moment, je cherche à lire les écrivains canadiens en français. Donc, je suis très mal... je ne suis pas la bonne personne à qui il faut poser cette question. Je m'intéresse justement aux écrivains de langue française canadienne. Mais je pense qu'effectivement, il y a un patrimoine extrêmement riche en français, dans la francophonie, et qu'il faut que les élèves prennent conscience de cette richesse et de cette diversité. Hein. Votre intervenant précédent parlait de la diversité francophone, et j'ai trouvé que c'était une très belle expression.
Oui, et parce que cela m'inquiète, hein, je vois qu'il y a des maisons d'édition qui sont en train de fermer boutique. Donc, les écrivains d'ici n'auront pas de plateforme nécessairement pour véhiculer leurs œuvres, à moins d'utiliser Internet, le Facebook. Mais là aussi, il faut faire attention avec tous les dérapages qu'on a subis récemment, et c'est dans les nouvelles hein, ces temps-ci. Alors, donc, comment faire pour intéresser les jeunes et le public en général, francophile, francophone? Comment décloisonner justement tous ces obstacles qui empêchent monsieur, madame, tout le monde à rentrer dans l'univers francophone? Parce que souvent, il y a des francophones, les communs des mortels, qui pensent que la langue française est réservée seulement à une certaine élite. Même ici, hein, on en parle. Ils trouvent que c'est pas assez justement populaire, si on peut utiliser le terme, pour que les gens arrivent à s'apprivoiser de cette langue, de cette culture francophone. Alors, il y a tout un travail de défrichage, je pense, le défrichage.
Tout à fait. Moi, je pense que les élèves nouveaux arrivants francophones, ouais, ou non d'ailleurs, mais en particulier les élèves nouveaux arrivants francophones au Canada et en particulier en Ontario, sont un cadeau pour l'éducation. Et je pense que nous devrions déployer le plus de moyens possibles pour les accueillir le mieux possible dans l'éducation francophone en Ontario, oui, parce que justement, ils ouvrent la francophonie ontarienne vers l'extérieur, vers d'autres francophonies, vers d'autres cultures, vers d'autres... patrimoine. Voilà.
Oui. Alors, je rappelle aux gens que vous avez aussi travaillé en tant que consultant chercheur, évaluateur et examinateur pour plusieurs organisations et revues internationales, et vous avez participé à des analyses politiques, notamment pour la Commission européenne et le Migration Policy Institute, c'était Washington DC, en mai 2015. Donc, vous avez vraiment tout un bagage, tout un parcours académique, culturel. Je pense que nous sommes chanceux de vous avoir avec. Alors, c'est drôle, hein? Je suis ici depuis 30 ans, je fais cette émission, c'est la première fois que je vous parle.
Pour moi, c'est aussi la première fois que je vous parle.
Or, on reçoit régulièrement Hélène, comment ça s'appelle ? Enfin, il y a plusieurs écrivains qui, de temps en temps, passent à l'émission. Mais je suis très heureux de cette rencontre et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Docteur Emmanuel Lepichon, Wortmann, madame, monsieur, prochaine conférence du CREFO pour une éducation inclusive, repenser le rôle des langues dans l'enseignement. C'est prévu pour le 28 mars prochain de 17h à 18h30 au 12e étage à OISI, Université de Toronto, 252 rue Bloor-Ouest. Et vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite ou encore vous allez sur www.crefo.oisi.utoronto.ca/conférence2018. Vous allez tomber sur la conférence du docteur Emmanuel Lepichon-Wortmann. Je vous remercie infiniment et peut-être un mot de la fin pour souhaiter vos voeux pour la francophonie aux auditeurs, aux internautes et nos invités.
Je vous remercie beaucoup d'abord. J'espère vous voir mercredi et vous rencontrer. Mot de la fin, eh bien, je dirais vive la francophonie.
Et bonne chance et bon succès. On se reparle très prochainement.
Si au revoir.
Au revoir. Voilà tous les gens. Et oui, rapidement, madame, monsieur, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à nos émissions depuis le 4 mars prochain. Leïla Slimani, lauréate du prix Goncourt en 2016 et représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. Momo du Togo, Thomas Gauthier, et oui, c'était dans le cadre de mon idée pour le français, il est du Québec. Percy Iptong, directeur artistique, producteur de Cyper Productions dans le cadre de Maurice 50e anniversaire d'indépendance. Nous avons aussi accueilli Nathalie Nadon, c'était le 4 mars dernier, membre du trio vocal Les Chiclettes, comédienne, chanteuse de formation, auteur de théâtre, productrice. Et oui, merci beaucoup. Le 11 mars, on accueillait à nouveau Leila Slimani et Madame Tiffany Fukuma, elle est l'attachée culturelle, chef de service au Consulat général de France. Un sincère remerciement. Madeleine Houchégon, elle est fondatrice de l'agence de communication 36 000, une maison de production à Ottawa. Et puis, dans le cadre de Mon idée pour le français, Martin Delacou de France, Mamadou de l'Égypte, Maylin du Cameroun et Moï Giawa de Mithilde de la région de Toronto. Dimanche dernier, on accueillait Peggy Lampotam, artiste, photographe, auteur de plusieurs romans et nouvelles. Île Maurice, 50 ans. Jean-Claude Dedan, journaliste au Défi Média Plus à l'île Maurice. Yao, slam professionnel franco-ontarien, porte-parole du concours Slam tes accents du Centre de la Francophonie. Nous avons aussi accueilli le président directeur, monsieur Denis Degagné, voilà, des Centres des Amériques, et en direct du Québec. Et puis Béatrice de France, Pancom de Bakula de la République démocratique du Congo et Reda Sediki de l'Algérie.
CIUT 89.5 Toronto.
Ça tourne quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI.
RFI.
RFI.
RFI. RFI, la radio du monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Cassettes et disques, tu passes?
Ouais.
Oui.
Elvis, là, y a-tu décédé chez vous?
Non, il est décédé à Memphis, monsieur.
Ouais, as-tu des cassettes d'abord?
Des cassettes, j'en ai 5.
Ouais, mais sont-tu bonnes?
Moi, j'aime beaucoup les 5 cassettes.
Ouais?
Ouais.
Moi, j'aime bien mieux Bingo, mais.
On a également des livres d'Elvis, si ça peut vous intéresser, là.
Ouais, on laisse ça, je lis pas, moi.
Ah non?
Moi, je lis les scores du baseball puis les numéros de la loto, mais.
Ah, vous lisez des chiffres?
Ouais.
Vous êtes un lecteur numérique?
Hey, bonne petite joke, ça, là.
Merci.
Bon, ben, laser arrière, qu'on continue à parler, il m'a raccroché, moi, là.
Laser.
Il faut qu'on s'en aille, moi, puis ma blonde, là. Il faut qu'on pacte.
Ah, compact.
La pointe-tu, là? Hey, raccroche dans ça, ce petit téléphone-là.
Pardon?
Ah oui, raccroche ça, toi, là.
Pardon?
Et oui, souriez, souriez, vous êtes prise en photo, madame, monsieur, dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. La première ministre de l'Ontario, madame Wynne, a reconnu que le français était une force pour l'Ontario et que la communauté franco-ontarienne était diversifiée. Ah, c'est toute une nouvelle. Et dans un message vidéo, la ministre Lalonde, responsable des affaires francophones, a salué la communauté franco-ontarienne pour son dévouement envers la langue française. Et je cite... Nous, les franco-ontariens, franco-ontariennes, sommes une communauté forte, la plus grande en dehors du Québec, et bien ancrée dans plusieurs communautés au travers de la province. La ministre Lalonde a rappelé qu'il était important de parler cette langue tout en soulignant les avancées de la communauté au cours des derniers mois, notamment le statut de membre observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut être fier de parler français et d'être franco-ontarien, peu importe votre accent ou même si vous faites des fautes ici et là. C'est intéressant. Et en Alberta, madame, monsieur, je vous rappelle que des dizaines d'élus ont pris une photo afin de souligner cette journée. Du côté de la Nouvelle-Écosse, le drapeau de la francophonie a été levé à l'Assemblée législative de la province. Mais moi encore, je tiens à mon idée pourquoi les élus du gouvernement de l'Ontario a passé cette journée internationale de la francophonie en toute discrétion. Pourquoi? Pourquoi? Et oui, dans le cadre de la grande consultation mondiale, mon idée pour le français, nous avons reçu plusieurs propositions, plusieurs idées intéressantes. Et oui, et entre autres, des journalistes, des jeunes, des moins jeunes, et Caroline Lebrec, que nous connaissons très bien, qui enseigne à l'Université de Toronto, campus de Mississauga, et maître de conférences, responsable de projet. Bonjour, Caroline.
Bonjour Eric. Bonjour.
Alors nous sommes dans le feu de l'action, c'est la dernière émission du mois de mars, oui, dans le cadre des célébrations de la francophonie. Est-ce que vous, chère Caroline, vous avez célébré la francophonie, la journée internationale de la francophonie en toute discrétion ou en grande pompe?
Certainement en grande pompe.
Et
nous avons cette année sur le campus de Mississauga, il y avait deux activités pendant la semaine de la francophonie, mm-hmm, le traditionnel pot franco et la soirée des talents, à laquelle j'ai moi-même participé pour la première fois, même si c'est l'événement que j'organise. Donc c'était en grande pompe, j'ai chanté.
Ah oui,
derrière chanté. Le micro.
Eh ben, il faut venir chanter à la radio un jour. Ouais, on va.
Non,
on...
je suis pas là.
Ouais, ouais. Alors, mais... et les jeunes, et vous avez entendu peut-être un peu les réalités de nos invités. On a parlé de santé en français, l'éducation. Il y a cette conférence qui s'en vient au CREFO cette semaine. Vous avez entendu le docteur peut-être Amadou Ba, qui vit à North Bay, un peu au nord de la province de l'Ontario. Et on sent qu'il y a un intérêt pour débattre. D'ailleurs, il y a plusieurs invités que je ne peux pas admettre à cette émission aujourd'hui, parce qu'en 2 heures, on ne peut pas recevoir tout le monde, malheureusement. Mais on a tenu quand même à vous avoir parce que c'est le lien avec l'Université de Toronto. Et les gens connaissent encore très mal la vitalité du français à l'Université de Toronto, parce qu'il faut bien admettre, et je sais que je vais me faire taper sur la tête, mais je prends des risques. On a entendu parler beaucoup de la semaine de la francophonie au collège Glendon, au collège Boréal. Et très peu, malheureusement, et c'est pour cette raison que je vous ai fait intervenir aujourd'hui pour justement remettre la pendule à l'heure, comme on dit.
Ben, merci Eric d'avoir fait une place à l'Université de Toronto dans cette émission importante qui clôt les festivités de la cérémonie. Rendre le français vivant sur le campus, c'est notre rôle. En dehors du campus aussi, nous multiplions les événements, comme on dit, de outreach, pour prendre des contacts avec la communauté en dehors du campus, communauté francophone, dans toute sa diversité. Et cette année, l'Association des étudiants francophones de UTM ont pris l'initiative de créer des t-shirts à l'effigie, au logo du département d'études langagières de Mississauga et d'études françaises de U of T. Donc nous avons pour la première fois un t-shirt U of T French ou U of T français qui est disponible pour tout le monde, avec une participation financière très généreuse du département lui-même d'études langagières. Et donc, le t-shirt, au final, a un coût seulement.
Alors, ça, c'est très bien, comme génial comme idée. Le temps
nous
passe, malheureusement.
Vous en
offrir un. Oui, merci beaucoup. Mais moi, parce qu'on est en train de fermer les routes, les barricades. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la ville de Toronto, madame, monsieur, qui nous écoutait à l'autre bout de la planète. Faites très attention quand vous venez à Toronto. Les fins de semaine ici, il y a toujours un marathon, une fête régionale ou quelque chose. Alors, les Portugais ont leur journée internationale et il y a des rues où ils sont fermées ou célèbres. Les Italiens ont leur journée internationale, leur fête, et là aussi c'est la même chose. Les Grecs ont le quartier grec, ils ont aussi leur fête, ils ferment la rue toute une journée. Pourquoi pas un jour les francophones décideraient pas de marcher ensemble un défilé régional dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, avec des pancartes, des t-shirts, des slogans. Et on marcherait, je ne sais pas moi, de Bloor et Yonge, qui est au centre même de Toronto, de la ville de Toronto, et on descendrait à Queen's Park, devant le Parlement de l'Ontario. Hein?
Ah ben c'est une très bonne idée, Eric, vous pouvez compter sur moi, je serai très certainement en tête de cortège.
Je vais écrire au maire de la ville de Toronto, Monsieur Torrey.
Mais vous avez raison de faire la différence avec la journée de célébration des Italiens ou des Grecs, par exemple, parce qu'il y a des quartiers auxquels ces communautés sont ancrées à Toronto, alors que la communauté francophone, dans toute sa diversité, est tout aussi diversement installée géographiquement dans la ville et ses alentours. Donc, ce ne serait pas très logique d'avoir une rue bloquée pour faire ce même type de célébration, mais en revanche... faire une marche avec un itinéraire précis avec des banderoles pour faire entendre le français, parce que c'est ça notre rôle en tant qu'enseignant et en tant que apprenant du français et en tant que participant à la communauté francophone, c'est de pratiquer ce français et de le faire entendre, de se faire connaître et de le rendre vivant.
Et vous avez envoyé justement une missive cette semaine pour terminer rapidement. Pour vous, c'est très important de lire en français, d'écouter les nouvelles en français, de pratiquer la langue française pour garder sa langue française, parce qu'il faut bien dire qu'on vit dans un monde, une mer d'anglophones où tout est en anglais. Et c'est important pour vous de lire en français tous les jours et de regarder la télévision, de dialoguer en français avec vos collègues ou les amis.
Oui, tout à fait, de garder le contact quotidien. En tant qu'enseignante, en tant que mère aussi, j'ai une fille de 10 ans qui est dans le conseil scolaire Viamonde, qui sont des écoles qui ne sont pas des écoles d'immersion, mais il y a un mélange déjà très important entre les enfants de franglais, et il faut déjà à cet âge-là imposer le français à la maison, et donc c'est un travail de toute haleine, mais qu'il ne faut surtout pas lâcher. C'est la situation, c'est la réalité d'une situation minoritaire dans une province anglophone. C'est comme ça, c'est la réalité. Mais c'est à nous de se battre.
Nous allons continuer, madame, monsieur, tout au long du mois et aussi de l'année si on est là. Petite chronique du français comme on l'aime, du professeur Bernard Seguiglini, les linguistes, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et auteur de « Enrichissez-vous, parlez francophone ». Si j'ai le temps, je vais lire aussi les autres messages que j'ai reçus cette semaine, des journalistes, des auditeurs, des internautes de Vietnam, par exemple, de l'île Maurice, de Madagascar, de Haïti. Ils sont vraiment très nombreux et je vous remercie de la part de toute l'équipe Caroline Lebray d'avoir été des nôtres et d'avoir joué le jeu, d'avoir envoyé votre message au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui sont présentes ici. On vous dit merci. Et à très prochaine, à la prochaine, comme on dit.
Merci, Eric.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir.
La francophonie. La francophonie, la francophonie, qui s'aime beaucoup, mon mère, pour les quêtes sous Warlade, Warlade, ni du Kuchiwane, Wani Watanga, Toluni Warlade. Wangina big chi and the pandas be at the cold.
Et oui, nous avons reçu plusieurs messages, entre autres un ami maintenant, j'espère que sera notre correspondant de toujours de l'île Maurice, Jean-Claude Dedan, journaliste au Défi Média Group de l'île Maurice, au Océan Indien.
Il dit « Sans faire la leçon, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice pour une meilleure compréhension et l'utilisation de la langue française à travers le monde et dans mon pays, l'île Maurice. Pour parler le français, il faut d'abord de la lecture assidue, aimer la littérature et ses auteurs locaux ou ailleurs, et avoir un débit facile. Pour cela, il faut parler, parler, penser, penser, écrire, écrire dans la langue de Molière et de Racine. J'ai un penchant pour Montpassant et Bouche Beaumarchais, eh oui. Il y a toutefois, dit-il, un gros hic, eh oui, et un bémol même, que je mets dans mon affirmation, ce qu'il faudrait faire pour que le français ne devienne pas une langue morte comme le latin à Maurice. Hormis les réseaux sociaux, les jeunes ne lisent plus, ne sont plus curieux, encore moins vivaces. Les reportages sur Canal+ ne les intéressent pas. Ils ne s'accommodent que du prêt à consommer. Moi, je connais le prêt à porter, lui dit le prêt à consommer. Soit du commercial. Ils ne peuvent aligner deux lignes sans commettre des fautes de participe passé. Ils n'ont même pas un livre de grammaire, monsieur, qui aurait dû être à leur chevet. Bref, il y a un manque de culture, une absence grotesque du savoir, d'envie, hormis les matières académiques du collège. Souvent dans mon métier, je crie, mais comme crier dans le désert. Eh oui, faut-il tirer la chasse d'eau? J'y ai très envie, tellement je suis, c'est lui qui le dit, fed up. Mais je me suis donné une tâche, former. Si cela peut servir à sauver notre presse qui est francophone, tant mieux. Sinon, aidez-moi à tirer l'échelle. Bien à vous, Jean-Claude Dedan, journaliste au Défi Média Group de l'île Maurice. Merci. Ça va les amis? Vous êtes en forme? Vous êtes prêts à danser? Le printemps est arrivé, hein? Regardez-moi ça. Chigale! Et nous allons danser la samba avec notre dernière invitée, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que elle a remporté un très grand prix, madame, monsieur, cette semaine. Je suis complètement aveugle. Tellement que je suis heureux pour elle, parce qu'elle la mérite. Parce qu'elle la mérite, madame, monsieur. Elle nous fait voyager à travers ses films, ses documentaires, depuis des années. Finalement. Et oui, elle a reçu la médaille de l'Ordre de la Pléiade. Marceline, fondatrice, directrice de Ciné Franco. Bonjour, madame.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce qu'il y a un titre qui vient avec cette médaille?
Non, apparemment, je suis chevalière.
Ah, vous êtes chevalière. Ah, madame la chevalière.
Oui.
S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me pardonner? Parce que je ne savais pas que vous
êtes... Écoutez.
Je sais, on a appelé le cheval et les chevaux.
C'est exact. Moi qui ai peur des chevaux, je suis deux fois chevalière.
Je vais demander au professeur. Oui. Chevalière et chevalier, est-ce qu'il y a des chevaliers ou des chevalières?
Alors, il y a des chevalières, mais elles ne sont pas de ma forme, en tout cas.
Bravo, félicitations.
Merci.
Vous savez, je dis, on garde la cerise sur le gâteau parce que on y tenait à vous avoir à cette émission.
Merci.
Parce que nous faisons cette réflexion profonde de la culture, de la francophonie, de la langue française, dans tous ses états, dans tous ses accents. Vous, depuis que vous êtes à Toronto, depuis qu'on se connaît, vous avez vu l'évolution de cette francophonie. Vous avez vu des nouveautés, des naissances, des gens qui sont partis, d'autres qui ont changé. Comme je regardais l'autre jour un de mes documentaires, j'ai plusieurs trucs d'archives. J'ai des archives.
Oh là.
Oui, j'ai des archives. Et quand je dis aux gens, il y avait le théâtre du Petit Bonheur,
ils
me disent, tu rêves en couleur. Je dis, mais non.
C'est vrai.
Ça existait bien, le théâtre du Petit Bonheur, qui va célébrer 50 ans cette année.
Mais oui. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça fait 45 ans que je suis à Toronto. Quand je suis venue à Toronto, j'avoue que c'était un bastion très anglo, très britannique à mon avis. Quand on parlait une langue étrangère, comme par exemple le français, on nous traitait de martiens presque. Hein.
Mais non, on allait même plus loin. Oui. On allait même plus loin. On m'a dit « speak white ».
Oui. Oui, 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 tout à fait. Et je me souviens que j'avais passé à peu près 2 ans en Angleterre. J'habitais à Liverpool à un moment donné. Et ça me rappelait beaucoup la façon de penser, les pubs qui étaient, les pubs, je devrais dire, qui étaient fermés le dimanche. Il y avait très peu de cinéma, d'ailleurs. Et il y avait énormément de salles de cinéma, d'ailleurs, qui ont été fermées au fur et à mesure. Hélas, mais il y avait très peu de contenu de cinéma et c'était, moi je dirais, un désert culturel.
Mais oui.
Enfin bref.
Mais vous savez, moi j'ai eu l'occasion et le bonheur de parler à plusieurs, il y en a malheureusement qui ne sont plus de ce monde, mais qui m'ont beaucoup, beaucoup appris et m'ont partagé vraiment. Ils sont ouverts, si vous voulez, le livre de leur vie, parce qu'il y en a qui étaient des épouses de soldats canadiens,
ils
étaient françaises, elles sont venues s'installer ici, et elles s'ennuyaient en mourir les fins de semaine, et comme ça, avec Lauriez à l'époque, qui a fait le French Saloon, chaque dimanche, il y avait ces femmes françaises, n'est-ce pas, qui se rencontraient, et c'est là qu'ils ont démarré un petit club de cinéma, de cinéphiles.
Oui,
hein?
Oui.
Et c'était très intéressant de savoir cette belle époque, mais il n'y avait pas de subvention.
Non.
Il n'y avait aucun appui à l'époque.
Oui. Mais il n'y en a toujours pas de subvention. Hélas. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes une minorité. Mmh. Voilà. C'est ça. On a beaucoup parlé de. On a martelé le concept de la minorité et il est évident que les subventions en particulier du gouvernement sont aussi liées au fait que nous ne sommes peut-être pas les électeurs choisis ou les électeurs assez nombreux du moins pour voter pour un gouvernement qui nous donnerait donc des subventions.
Écoutez, cette semaine, moi, j'ai trouvé ça formidable. Mais j'invente rien, madame, monsieur. Allez sur le site de hashtag ONFR, vous allez voir. Cette semaine, l'Ontario, d'ailleurs, madame, monsieur, fait partie comme membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est tout un poids pour l'Ontario et les franco-ontariens, franco-ontariennes. Pourquoi, madame la chevalière, pourquoi a-t-on passé sous silence, en toute discrétion, cette journée si importante pour nous, les francophones?
Mais c'est la presse, et en général, bien sûr, nous sommes représentés de façon magnifique par l'Express, par le Métropolitain, par Radio-Canada, c'est évident, mais on vit dans un milieu anglophone. Quand je sors de ma porte de l'appartement, moi, par terre, j'ai le Toronto Star, j'ai le Globe, j'ai pas toujours accès. Il faut que j'aille chercher l'Express, j'aille chercher le Métropolitain, que c'est un effort, en fait, qui, quelquefois, n'est pas toujours possible. Et comme on vit très vite, comme on vit d'une activité à une autre, comme on est distrait, etc., on va au plus facile. Et qu'est-ce qui est le plus facile? C'est ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on a à nos pieds, c'est ce qu'on a dans notre vie où on baigne tous les jours.
Oui, c'est vraiment grave. Vous êtes dans le monde parce que, à la votre façon, comme nous, nous essayons de faire avancer la langue française, mais vraiment tout en s'amusant, parce que dans vos projections de films, il n'y a pas que du sérieux,
non.
Il y a des comédies.
Oui, oui,
hein?
Exactement.
Et vous essayez de, je sais,
égayer un peu l'ambiance pour que les gens s'apprivoisent de cette langue,
voilà.
Que c'est pas la langue de Molière, que c'est pas la langue des Français, c'est pas la langue qui s'arrête avec une certaine élite, mais que cette langue, elle est parlée dans le Maghreb, elle est parlée à sa façon en Afrique, qu'elle est parlée à sa façon au Québec. C'est ça que je trouve formidable à Cinéfranco.
Oui, c'est ça. Il faut conjuguer en fait les contextes culturels.
Voilà.
Et nous sommes une grande diversité, et Cinéfranco veut être rassembleur, justement. Et aussi, par des films, nous nous révélons et nous nous connaissons mieux, parce qu'il y a quelquefois des cloisonnements entre, justement, les francophones. Et ces cloisonnements, on ne peut les faire éclater que en nous connaissant mieux, en détruisant les barrières des préjugés. Et quelquefois, on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et c'est pour ça, à mon avis, que j'essaie, justement, de faire cette conjugaison de diversité, de manière à ce que, en se rassemblant, on peut non seulement nous révéler, on peut mieux se connaître les uns les autres, mais aussi il y a une projection sur l'écran. Quand je vois des films américains, c'est pas moi. Tandis que quand un moins jeune voit des héros sur un écran francophone, là on peut se projeter, on peut avoir notre idéal, on peut avoir notre héros. En fait, c'est un langage culturel qui est comme la linguistique, c'est un langage culturel qui est essentiel pour nous, comme le théâtre, justement, comme la chanson, comme la musique. La musique est universelle, mais qui exprime bien souvent aussi des caractéristiques d'où on vient. Et oui, c'est vrai que on passe sous silence bien des choses de la francophonie. C'est ça, parce que moi j'ai envie de citer Gilles Vigneault quand il dit que la francophonie, c'est un vaste pays sans frontières. Il dit c'est celui de la langue française, c'est le pays de l'intérieur, c'est le pays invisible, spirituel, mental, moral, qui est en chacun de vous.
Marceline, fondatrice, directrice de Cinéfranco, allez sur le site www.cinéfranco.com. D'ailleurs, vous avez un programme époustouflant qui s'en vient pour le mois d'avril avec des films du Québec, c'est ça?
Exact. Et nous nous associons avec la tournée du Québec Cinéma, et nous avons 6 films et des courts-métrages. Et nous avons la venue de 3, je dirais, artisans du cinéma. Bernard Raymond, Pascal Plante et Mélissa Lefebvre. Des personnes fascinantes, intéressantes. Mon héros cinématographique, Bernard Raymond, que je vais enfin rencontrer, j'espère, à mi-avril.
Ne partez pas, nous allons ensemble remercier tous nos invités. Je ne sais pas si vous les avez entendus, Madame La Chevalière, Docteur Amadou Ba, professeur universitaire d'histoire, auteur et chercheur, Docteur Emmanuel Depuchon-Wortzmann, qui donnera une conférence au CREFO mercredi prochain, ne pas rater. Professeur Bernard Sergui-Glini, linguiste, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie et auteur. Et dans le cadre de la grande consultation mondiale Mon idée pour le français, Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, Marceline, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est récipiendaire de la médaille de l'ordre de la Pléiade. Elle est chevalière de la table ronde. Caroline Lebrec, maître de conférence, responsable de projet sur le campus de Mississauga. Magda, journaliste en Roumanie, Sally de la Guinée, et ici nos plus jeunes collaborateurs, me faites rêver, DJ Devera, merci beaucoup d'avoir été là, il est très jeune ce monsieur, et aussi notre plus jeune étudiante qui est avec nous aujourd'hui, c'est sa dernière émission d'ailleurs, parce qu'elle va faire de la politique. Quel âge as-tu? Est-ce que tu as le droit d'aller faire de la politique? Jennifer Lee, merci d'avoir été là au nom de toute l'équipe. Je remercie tous ces gens qui ont participé pendant tout le mois. à nous faire voyager dans ce monde merveilleux qu'est la francophonie, n'est-ce pas, cher Marcel?
Absolument. Moi, et... je n'ai manqué aucune parole de toute l'émission, qui était absolument fascinante et pleine d'humour et pleine d'énergie et de passion. Et merci de nous stimuler tous les dimanches comme ça et de nous redonner la foi.
Et je vais inventer une crêpe, madame, monsieur, pour vous. La crêpe métissée, made in Toronto. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Au revoir, cher.
Bonsoir, merci,
madame,
merci de tout cœur.
Merci. Luni warngena be ki ende pandaski abiko ndi la francophonie kisembo ku monde la francophonie Momso kopu monne, ole ke basu warnga deram, warnga.